La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Dans les élections comme dans les sports, l'important c'est de participer.
Et la participation est au cœur de toutes les préoccupations médiatiques dans trois pays où des scrutins majeurs s'annoncent ou viennent juste de se tenir. J'ai nommé l'Algérie, la Côte d'Ivoire et puis bien sûr les États-Unis. On commence avec le référendum sur la nouvelle constitution algérienne soumise hier au peuple et censée, d'après El Watan, octroyer une nouvelle légitimité au pouvoir en place. L'actuel président Abdelmadjid Tebboune avait été mal élu, il faut bien le dire, en décembre dernier avec une abstention record de plus de 60%. Alors, pour lui faire adopter par référendum, une nouvelle constitution, pour lui qui a succédé au vieil Abdelaziz Bouteflika, chassé du pouvoir, on s'en souvient, par la rue, c'est une manière de montrer qu'il a tiré les conclusions de la contestation populaire, le Irak, et que le pays entier change d'air politique en même temps qu'il change de constitution. Sauf que, tout sur l'Algérie n'en démord pas, Abdelmadjid Tebboune est bien mal placé pour incarner le changement issu de la même élite politique qui accapare le pouvoir depuis l'indépendance. Et les Algériens, selon cette étonnante litote choisie par Tout sur l'Algérie, ne sont pas massivement allés se rendre aux urnes ce dimanche pour approuver la nouvelle constitution. Taux de participation finale, jugez-en plutôt, à 23,7%. Voilà un scrutin marqué par bien peu d'engouement populaire, euphémise à son tour le quotidien Liberté Algérie. Les électeurs ont clairement boudé le référendum. Les régions kabyles de Tizi Ouzou et Béjaïa ont même activement boycotté la consultation. Le vote n'y a quasiment pas été possible tant ses détracteurs ont tout fait pour empêcher l'ouverture des bureaux de vote. Si elle tranche avec le côté massif et enthousiaste de la mobilisation des Algériens du Irak depuis un an et demi, cette abstention massive pour le référendum n'est pas une surprise pour El Watan. La campagne référendaire s'est déroulée sans le public et sans débat, sur un mode uniquement promotionnel dans les médias, sans meeting pour cause de Covid-19, bien pratique pour mettre des bâtons dans les roues de l'opposition. Pour le caricaturiste Dilem et son dessin de presse d'hier dans Liberté Algérie, le référendum de ce dimanche, c'était avant tout pour le président Tebboune et les siens un moyen d'enterrer le Irak. Force est donc de constater, avec une abstention à près de 77%, que la révolution algérienne n'a pas encore rendu son dernier souffle.
En Côte d'Ivoire, Camille, c'est l'élection présidentielle de samedi qui a été massivement boycottée.
Oui, dans l'opposition à Alassane Ouattara, il s'agissait là de refuser d'empêcher même que le président sortant ne puisse être reconduit pour un troisième mandat. Lui qui avait juré en bon père de famille, comme le rappelle le site Afrique.com, qu'il s'en tiendrait à deux mandats successifs seulement. Face à cette parole non tenue, les principaux rivaux du vieux président ivoirien ont donc appelé leurs partisans au boycott actif. Et dans l'intérieur de la Côte d'Ivoire, on a vu depuis samedi des scènes de violence, des destructions de matériel électoral qui ont empêché donc la tenue du scrutin dans les régions acquises à l'opposition. Il n'y a pas eu d'élection présidentielle samedi, c'est ce que clame en une ce matin le nouveau réveil d'Abidjan qui appelle avec l'opposition à l'ouverture d'une transition civile du pouvoir pour acter le fait qu'Alassane Ouattara n'est plus le président légitime de la Côte d'Ivoire. C'est sans doute aller un peu vite en besogne, il faut bien le dire. Aucun taux de participation minimum n'est exigé pour prononcer officiellement la victoire du président sortant. Alassane Ouattara gagnant forcément avec des scores soviétiques, selon les premiers résultats évoqués par le site d'info abidjan.net, entre 80 et 90% des voix pour Ouattara contre moins de 2% pour ses principaux adversaires. Conclusion, le plus dur est encore à venir dans ces prochains jours pour la Côte d'Ivoire.
Et le spectre, Camille, de la violence politique, c'est aussi une donnée incontournable de la présidentielle aux États-Unis.
Oui, la menace d'affrontement, d'une guerre civile même entre milices d'extrême droite pro-Trump et groupes antifascistes de gauche, elle est évoquée dans de nombreux articles de la presse américaine, à commencer par le New York Times, qui affiche sur la page d'accueil de son édition numérique plusieurs photos de bâtiments, de commerces qui commencent déjà à se barricader en prévision de possibles émeutes. Les Américains ont peur pour le futur de leur démocratie, écrit Emily Badger dans le Times, quand dans le Washington Post, Mark Fisher lui décrit une anxieuse qui voit arriver le jour de l'élection avec la crainte qu'elle n'entraîne une explosion des tensions, des divisions qui ont, il faut bien le dire, rarement atteint de tels paroxysmes aux États-Unis. Et puis il y a des signes qui inquiètent, les ventes d'armes qui se sont envolées ces derniers jours, tout comme se sont multipliées les conversations autour des mots-clés guerre civile sur les forums de discussion de la droite pro-Trump. Il faut dire aussi, avec David Siders et Anita Kumar de Politico, que cette tension mise sur le scrutin, elle fait partie intégrante de la stratégie du président dans cette dernière ligne droite. Ses stratèges électoraux ont scruté tous les sondages état par état, catégorie d'électeurs par catégorie d'électeurs, et ils en sont convaincus: pour que Trump l'emporte, la marge de manœuvre est mince. Il faut un alignement de plusieurs conditions, un acharnement juridique pour faire interdire au maximum le décompte des votes par correspondance, et puis aussi le fait que de nombreux électeurs démocrates dans les états clés de cette présidentielle renoncent tout bonnement à aller voter parce qu'ils ont peur de possibles perturbations dans les bureaux de vote, des perturbations menées par ces soi-disant milices d'autodéfense citoyenne d'extrême droite qui ont juré, il faut bien le dire, qu'elles viendraient bien, selon leurs termes, surveiller le bon déroulement du vote, arme au poing, dans certains états déterminants. Dans son reportage auprès de militants démocrates dans l'état du Minnesota, David Weigel du Washington Post le montre bien. L'enjeu principal du camp Biden à la veille du jour J, c'est décidément de convaincre les Américains d'aller voter malgré cette peur bien réelle. En clair, l'important, c'est plus que jamais bien de participer.
Merci beaucoup Camille Magnard. Il est 7h43, on retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture.